Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai intitulé ce message aujourd'hui « Une prière égoïste ». Alors vous penserez tout de suite qu'une prière, une vraie prière, une prière que Dieu va exaucer, va entendre et à laquelle il va répondre, ne devrait pas être une prière égoïste. Alors je reviendrai tout à l'heure sur ce titre dans le courant de la méditation. Nous verrons que Jabez, le héros du jour, n'a pas été si égoïste que cela quand même si sa prière le concernait lui-même. Souvent, nos prières ont un petit côté égoïste. Je ne sais pas si on faisait un sondage, enfin, il faudrait faire d'abord un contrôle, mais c'est impossible à faire. Il faudrait que ce soit nous-mêmes qui le fassions, le contrôle. Pour nous rendre compte si la plupart de nos prières nous concernent nous-mêmes ou concernent les autres. Mais bon, c'est assez difficile à contrôler, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pourrions le surveiller, le contrôler. Et bien sûr, quand nous prions, nous ne passons pas notre temps à nous écouter ou à contrôler. Jabez fait partie de ces personnages bibliques particuliers dont la Bible parle très peu. Vous savez qu'il y a des personnages bibliques dont la Bible parle longuement. Je prends un exemple, le roi David. Le roi David, alors je mets à part les psaumes, puisque c'est lui qui en a écrit un grand nombre, mais le roi David, par exemple, son histoire nous est racontée pendant toute la première moitié du premier livre de Samuel, ce qui fait environ, je crois, 16 ou 17 chapitres, où son histoire est mêlée à celle du roi Saül. Puis après ces 16 ou 17 chapitres, il y a tout le deuxième livre de Samuel qui doit contenir aussi à peu près 25 chapitres au moins et qui nous parle en détail de la vie de David. Donc ça fait en tout peut-être 40 chapitres, c'est-à-dire un certain nombre de dizaines de pages sur une seule personne. Et puis à l'inverse, il y a des personnages bibliques, alors je ne parle pas bien sûr de Jésus, dont 4 évangiles minimum parlent, plus tout ce qui est dit dans les épîtres des différents apôtres. Mais, mis à part Jésus, qui est quand même un cas à part, il y a des personnages bibliques dont la Bible parle très peu. Je pense par exemple à ces personnages, on ne sait même pas combien ils sont, que la Bible appelle les fils d'Issacar. Issacar, c'était une des 12 tribus d'Israël. Et à un certain moment, comme cela dans le texte, il est dit que les fils d'Issacar avaient reçu de Dieu un certain don pour comprendre les temps dans lesquels ils vivaient. Et puis c'est fini. On ne parle plus d'eux. Il y a juste une phrase qui nous laisse entendre que ces hommes-là, ces frères-là, combien étaient-ils, encore une fois, je ne le sais pas, la Bible ne le dit pas, mais ces hommes-là, ces frères d'une même famille, avaient reçu de Dieu un don particulier pour comprendre les choses, pour comprendre les temps. C'est sûrement un don important. Je crois que ce serait bien d'avoir des fils d'Issacar aujourd'hui, de nouveaux fils d'Issacar ou de fils de quelqu'un d'autre, qui pourraient nous aider à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Parce que, mis à part ce que la Bible dit, à savoir que nous vivons certainement dans des temps qui sont parmi les derniers de l'histoire de l'homme, mais sans savoir pour autant combien ils vont durer encore. Je me souviens que lorsque j'avais une quinzaine d'années, ce qui fait un peu plus de 45 ans maintenant, eh bien, on m'avait pratiquement convaincu que Jésus allait revenir, qu'il était à la porte, et que c'était pour soit le jour même ou dans les jours qui suivaient. Et puis 45 ans ont passé. Alors c'est vrai que nous vivons des temps intéressants, des temps un peu curieux, des temps un peu de confusion, des temps d'incertitude, et nous aimerions qu'il y ait des gens qui puissent nous aider à comprendre plus en détail ces temps, mais que Dieu donne à son peuple de telles personnes. Alors, le personnage d'aujourd'hui s'appelle Jabez, selon les versions de la Bible. Jabez est un personnage dont la Bible ne parle qu'en quelques lignes. À ma connaissance, il n'y a aucun autre texte dans la Bible qui parle de cet homme. Alors, je vous propose cet après-midi, pendant quelques 20 minutes peut-être environ, de réfléchir à ce personnage et peut-être au-delà du personnage, aux raisons pour lesquelles il nous est parlé de lui dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, parce que ce texte est pris dans une généalogie, vous savez, c'est ces nombreux textes que l'on trouve surtout dans l'Ancien Testament et un petit peu moins dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux généalogies, si je ne me trompe pas, qui sont les généalogies de Jésus dans Matthieu et dans Luc. Mais à part ces deux généalogies, nous n'avons pas de généalogie dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, nous en avons, et nous en avons un certain nombre. L'une des premières doit être la généalogie d'Enoch, une des premières, peut-être la deuxième. Et dans cette généalogie d'Enoch, nous avons toute une, comme une, j'appellerais, une litanie, une suite de textes qui se ressemblent. Un tel vécut tant d'années, puis après tant d'années, il donna naissance à un fils, enfin, il engendra un fils plutôt, et puis il vécut tant d'années après, et puis il mourut. Puis son fils vécut tant d'années, puis il engendra un fils, puis après la naissance de son fils, il vécut tant d'années, etc., etc. Et c'est comme une litanie, à part un moment où il est dit « Un tel enfanta, Mathusalem enfanta Enoch ». Plutôt c'est son fils qui s'appelait Mathusalem, « engendra Enoch ». Puis Enoch vécut tant d'années et il engendra son fils. Il avait 65 ans quand il engendra son fils, Mathusalem, Methuselah. Et il vécut ensuite 300 ans, puis Dieu le prit, parce qu'il était agréable à Dieu, parce qu'il marchait avec Dieu. Et ici, dans cette généalogie, nous voyons que Jaïbetz ressort de la même manière. Il y a une généalogie au chapitre 4, et puis tout d'un coup, il nous est dit, je me suis trompé de livre des chroniques, et tout d'un coup, c'est la liste des descendants de Judas, et tout d'un coup, dans cette généalogie, il nous est dit, Jaïbetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Alors, première chose, le mot Jaïbetz vient d'une racine qui veut dire « souffrance, douleur ». Mais je ferai une deuxième remarque, c'est que le fait pour un enfant de naître en causant des douleurs à sa mère n'est pas une chose exceptionnelle. Aujourd'hui encore, un certain nombre d'accouchements se passent parfois dans la difficulté et dans la douleur pour la mère. Je dirais, je suis bien placé pour le savoir, pas personnellement, bien sûr, vous le comprendrez, mais dimanche dernier est né notre cinquième petit-fils, enfin petit-enfant, parce qu'il y a eu une petite-fille dans les quatre autres. Donc, et l'accouchement s'est passé quand même d'une manière un peu difficile. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. Jaïbetz est né dans la douleur de sa mère et a causé peut-être, entre guillemets, à sa mère des douleurs quand il est né, mais ce n'était pas un événement exceptionnel. Dieu n'avait-il pas dit dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3:16, à Ève, « Je multiplierai la douleur de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des fils au monde. » Cependant, ce n'est pas parce qu'une mère enfante dans la douleur, je dirais que son fils, son enfant, doit emporter la marque indélébile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a parfois des enfants qui naissent et qui portent des cicatrices physiques de la naissance, de leur naissance difficile. Mais là, il s'agit plutôt d'une douleur morale. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils sont nés, et parce que leur mère les a enfantés dans la douleur, porte le nom même douleur? Je crois qu'il y en a en Espagne. Pas pour dire en Espagne, parce qu'il y a ce prénom Dolores, qui veut dire les douleurs. Bon, j'ai connu une Dolores, elle n'avait pas l'air trop malheureuse pour autant. Mais c'est vrai que porter le nom même souffrance ou douleur, ça peut peser sur une personne. Et nous allons voir tout à l'heure que, visiblement, c'était le cas de notre ami Jaïbetz. Et d'ailleurs, vous savez bien, un certain nombre de personnes, hommes ou femmes, qui portent, pendant une grande partie de leur vie, des noms difficiles à porter. Alors, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a. Sans compter les personnes qui, et j'en ai entendu, qui arrivaient à un certain âge, disons à l'âge adulte, disaient, je les ai entendus le dire, « Moi, je n'aime pas mon prénom. J'aurais bien aimé m'appeler comme ceci ou comme cela, mais pas comme je m'appelle. » Alors parfois, il y a une solution qui est de se faire appeler par un surnom. J'ai connu, il n'y a pas très longtemps, une personne qui est assez proche dans la famille, qui par exemple porte son nom officiel, son prénom à l'état civil, c'est Dominique. Bon, rien de spécial. Mais on me l'a présenté la première fois comme s'appelant Hélène. Alors un jour j'ai dit, mais alors finalement ton prénom c'est Dominique ou c'est Hélène? Non, mon prénom c'est Dominique. Mais tout le monde m'appelle Hélène. Je dis, mais c'est ton deuxième prénom peut-être? Non, même pas. Alors vous voyez, il y a toujours des solutions. C'est de se faire appeler par tout le monde et de ne garder que pour l'état civil le prénom que l'on ne veut pas garder. C'est assez amusant, mais parfois ça peut être moins amusant que cela pour la personne qui porte le prénom, de voir tous les prénoms que parfois on donne aux enfants. J'ai connu quelqu'un qui avait donné à sa fille le prénom de Sylvie parce qu'il était un grand admirateur de Sylvie Vartan, hein, chanteuse des années, enfin qui chante encore, paraît-il. Bon, et ainsi de suite. On dans les années où il y a des coupes du monde de football extraordinaires, enfin toujours extraordinaires bien sûr, et mais où un joueur se distingue particulièrement, alors on donne son prénom à un certain nombre d'enfants qui vont naître pendant cette période. Et l'enfant va rester marqué par ce prénom, peut-être que toute sa vie il détestera le football, mais ça ne fait rien, il portera ce nom. C'est vrai que les parents ne pensent pas toujours, mais heureusement je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup, ne pensent pas toujours au fait que c'est l'enfant qui portera le prénom, c'est pas eux. Alors à la limite, s'ils voudraient bien s'appeler de tel prénom, de telle personne célèbre, qu'ils se le donnent eux-mêmes s'ils le pouvaient, mais qu'ils ne le donnent pas à quelqu'un d'autre qui peut-être ne s'en fera rien. Le pauvre Jaébetz, appelons-le Douleur, pour changer un petit peu et pour mieux comprendre, même si Douleur est un nom féminin, mais je n'ai pas trouvé de nom masculin qui puisse correspondre à Douleur, Souffrance. C'est vrai, il y a peut-être une interrogation à se faire. Pourquoi les noms qui symbolisent la peine, la douleur, la souffrance sont tous féminins? Il y a peut-être une injustice quelque part. En tout cas, en français, c'est comme cela. Ce brave garçon qui s'appelait Douleur, Souffrance, Peine, un jour a réagi. Alors que pendant toute son enfance, toute sa jeunesse, quand on voulait l'appeler, on entendait dans la pièce ou dans la maison ou parmi les gens, Douleur, viens ici. Douleur, est-ce que tu as fait tes devoirs? Ça, c'était la double douleur. Douleur, viens, va chercher ça, va chercher ceci, va chercher ceci. Et à chaque fois, ce garçon, en entendant ce prénom, disait, mais pourquoi? Pourquoi m'a-t-on appelé Douleur? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appelé Joie? Parce que c'est un prénom qui existe aussi dans certaines langues, Joie. Peut-être en vietnamien, je ne sais pas. Mais dans certaines langues, c'est un prénom qui existe. C'est quand même plus agréable de s'appeler Joie que de s'appeler Douleur. Parce qu'au moins, ça peut nous donner un petit peu d'espérance. Jaébetz, et c'est là le point crucial, Jaébetz a réagi. Et quand il a réagi, qu'a-t-il fait? Verset 10, il nous est dit, Jaébetz invoqua le nom du Seigneur. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est puissante et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Là, c'est son prénom. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce Jaébetz, qui reste pour nous, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, quelque peu mystérieux, parce qu'on ne sait rien d'autre de lui. Alors on va se concentrer sur ce qu'on sait, et tirer le meilleur de ce qu'on sait. Ce qu'il y a de formidable chez lui, donc, c'est qu'il a réagi face à l'adversité. Connaissait-il Dieu? Probablement. Le connaissait-il bien? Je ne sais pas. Cela me rappelle ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, quand il est dit que lorsque Adam et Ève enfantèrent leur fils Seth, après la mort d'Abel, c'est alors, il est dit, que l'on commença à invoquer le nom de Dieu. Ici, on nous dit, à un certain moment, il a invoqué le Dieu d'Israël. Cela laisse entendre qu'il en avait quand même entendu parler quelque part. Mais vous savez, Dieu accepte que tout le monde l'invoque ou le prie. On a souvent vu dans l'histoire de l'homme dans l'histoire de la foi, du christianisme, des gens invoquaient le nom de Dieu sans savoir exactement qui il était. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais une quinzaine d'années, on avait mis entre mes mains un livre, on mettait toujours entre mes mains des livres, je lisais beaucoup quand j'étais jeune parce que mes parents lisaient beaucoup, mes frères aînés lisaient beaucoup, donc c'est une maladie de la famille, une bonne maladie celle-là. Surtout qu'on lisait souvent des livres qui parlaient de Dieu. Et on a mis entre mes mains un jour un livre qui s'appelait, je crois que c'était du nom simplement de la personne, le Sadhu Sundar Singh. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du Sadhu Sundar Singh. C'est un livre qui a été écrit, que si j'avais 15 ans à l'époque, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un livre qui a certainement été écrit, au moins, même si je n'ai pas 65 ans, au moins une cinquantaine d'années, parce qu'il existait déjà depuis plusieurs années quand on me l'a mis entre les mains. C'était un homme qui était de religion sikh, donc qui habitait en Inde, et qui avait, pour diverses raisons, était arrivé au bord du suicide. Et un jour, il a décidé de se suicider tout simplement en se couchant et en s'attachant lui-même au rail de chemin de fer. Il savait qu'un train passait tous les jours à une certaine heure, donc environ une demi-heure avant, il est arrivé, il s'est couché sur les rails et il a demandé à Dieu de se manifester. Il a dit à Dieu, avant tout en se couchant, « Seigneur, si tu existes, alors révèle-toi à moi. » Et il s'est trouvé qu'avant le passage du train, Dieu lui est apparu dans une vision et lui a parlé. Bien sûr, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Alors cet homme a vu sa vue changer complètement. Bien sûr, il s'est vite détaché et il s'est vite relevé, il a vite sauté de la voie ferrée. Le train est passé un peu plus tard, mais lui était vivant. Et il a cherché alors après à connaître ce Dieu en lisant la Bible. Il a rencontré des gens qui lui ont fait connaître la Bible. Et il est devenu un des plus grands serviteurs de Dieu, de son temps et de son pays. Pourquoi ? Parce qu'il était là devant une sorte de fatalité comme était Jaïbetz. Jaïbetz a cru pendant certains temps, pendant toute sa jeunesse, que sa vie serait une vie de douleur parce qu'il portait ce nom, qu'il était presque prédestiné à une vie de difficulté. Mais voilà, à un certain moment, il s'est dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut m'en sortir. Il a invoqué le nom de Dieu. Vous savez que les évangiles nous montrent que Dieu se plaît à changer la vie des hommes. C'est ce qui différencie le christianisme de la plupart des religions. Les religions ne changent pas les vies des hommes. Les religions mettent sur leur dos des fardeaux, par exemple des rites qu'il faut accomplir, des prières qu'il faut faire, parfois des pèlerinages qui ne seraient conseillés, fortement recommandés, pour être en meilleure situation face au Dieu de cette religion, etc., etc. Des commandements qui sont très nombreux, parfois même pour toutes les circonstances de la vie. C'est ce que j'appelle des fardeaux. Mais les religions ne libèrent pas l'homme. Jésus, au contraire, est venu pour changer la vie des hommes. Les hommes qui se tournent vers lui. Souvent, dans la Bible, nous rencontrons des personnes, des personnages qui ont cru que Dieu pouvait changer leur quotidien, que Dieu pouvait changer leur vie. Je pense à cet homme qui s'appelait Jacob et dont la Bible nous montre que pendant son enfance, pendant sa jeunesse, c'était un garçon qui portait très bien son nom, lui aussi. Jacob veut dire celui qui trompe. Et vous savez que cette histoire nous montre bien que jusqu'à un certain jour, Jacob a passé sa vie à chercher à tromper les autres. Et celui qui a été le plus trompé par lui, c'était son propre frère jumeau, auquel il avait volé par ruse, auquel il avait volé la bénédiction de Dieu. Mais on voit qu'à un certain moment, Jacob a en quelque sorte fait un pacte avec Dieu, en disant « Seigneur, si tu me gardes pendant ce voyage, c'était le voyage qui lui permettait de fuir loin de son frère qui voulait le tuer, après cette tromperie, Jacob a dit « Seigneur, si tu veux me garder, si tu me protèges, si tu me conduis, si tu me ramènes ensuite, enfin si tu me gardes en toute chose pour qu'il ne m'arrive rien de mal, alors tu seras mon Dieu. » Et vous savez que Jacob a vu Dieu répondre à sa prière. Et son nom a été ensuite transformé pour qu'il ne s'appelle plus celui qui trompe, parce que ce n'était plus celui qui trompe. C'était celui que Dieu avait transformé. Et dans toute la Bible, nous voyons souvent des fatalités, ou ce qui peut paraître pendant un certain temps comme des fatalités, tomber parce que des hommes ont cru qu'avec l'aide de Dieu, les choses pouvaient changer. David devant Goliath. David vient rendre visite à ses frères, il leur apporte un peu de nourriture pour changer l'ordinaire, pour améliorer l'ordinaire surtout, et puis il voit un soldat énorme, tout puissant apparemment, qui terrorise et l'armée d'Israël et son chef, le roi Saül. Normalement, un petit jeune homme de 15 ans, c'est probablement ce qu'il avait à l'époque, ne se serait jamais mis à l'idée qu'il pouvait faire quelque chose. Il aurait regardé ce géant avec terreur et puis aurait dit « Bon, maintenant j'ai accompli ma mission, j'ai donné la nourriture à mes frères, je suis venu prendre de leurs nouvelles, je vais vite rentrer à la maison parce que ce géant me fait peur. » Mais David a relevé le défi et a cru qu'il n'y avait pas de fatalité, surtout pour les enfants de Dieu. Il a cru qu'il y avait un Dieu qui était plus grand que la fatalité. Alors, il a pris, excusez-moi l'expression, elle n'est pas très biblique, il a pris le taureau par les cornes, comme on dit. Il a pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'il s'est mis au travail. Il est allé voir Dieu, il a prié Dieu, il est allé voir le roi, il a demandé la permission du roi, et puis comme le roi était impuissant, il a dit « Ben vas-y, on verra bien, après tout, pourquoi pas ?» Enfin, je pense que le roi était moins optimiste que cela. Mais il a laissé David aller, et Dieu a changé la vie de son peuple en se servant d'un enfant, sans doute adolescent. Jabez a donc prié, parce qu'invoquer le nom de Dieu, ça veut dire prier. Il a prié Dieu parce qu'il s'est dit « Seul Dieu peut mettre fin à la fatalité qui m'est tombé dessus le jour où je suis né. » Notamment et principalement à cause de ce prénom duquel on m'a affublé. Pas simplement donné, mais duquel on m'a affublé et qui me pèse tant. Jabez, et c'est ça qui est formidable aussi chez lui, c'est que Jabez s'est dit, mais je n'ai jamais entendu personne dire que Dieu avait changé sa vie à cause d'une telle chose. Jamais un homme n'a prié pour que Dieu non pas change son nom, mais ce que signifie son nom dans la vie concrète, parce que Jabez, vous avez vu, n'a pas demandé « Seigneur, change mon prénom. Seigneur, trouve-moi un moyen de faire changer mon prénom. » Non, il a prié Dieu en se rappelant que son prénom est une chose, mais ce n'est pas à cause de ce prénom que sa vie doit être une douleur permanente. Il a dit « Seigneur, tu peux changer cela. » Peu importe le prénom que je porte. Après tout, il y a beaucoup de gens qui portent des prénoms qui ne leur ressemblent pas du tout. Il paraît que le prénom André, par exemple, en grec, veut dire courageux, viril. Mais il y a forcément des André qui ne sont pas des gens très courageux. Je suppose qu'il y a certainement parmi tous les André de la Terre, dans toutes les langues que vous voulez, des André qui sont peureux, effrayé pour un rien. Et pourtant, le prénom veut dire courageux. Alors, Jabez s'est dit, bon, peu importe mon prénom, ce que je veux, c'est que ma vie change. Alors, il a prié Dieu, et qu'a-t-il dit? Et c'est là que nous arrivons au dernier point de cette réflexion, de cette méditation. La prière de Jabez, et je pose la question, était-elle vraiment une prière égoïste? La prière de Jabez était-elle vraiment une prière égoïste? Égoïste. Alors, que dit-il dans sa prière? Si tu me bénis, Seigneur, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En quelque sorte, pour le tourner dans un français plus compréhensible, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi, préserve-moi du malheur, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et en disant cela, cette dernière phrase, afin que je ne sois plus dans la souffrance, c'est là que nous voyons qu'il est presque certain, même certain, que ce garçon vivait avec le poids de son nom. Et même si au départ il n'était pas voué par les événements à une vie de souffrance, après tout c'était sa mère qui avait souffert. Mais pas lui. Il n'est pas dit que lui a souffert quand il est né. Sa vie était devenue une souffrance, peut-être parce que on lui répétait souvent « Ah, si tu savais combien ta mère a souffert pour te mettre au monde, si tu savais... » Vous savez que les adultes sont passés maîtres en l'art de faire culpabiliser les enfants. Si tu savais... Alors si par exemple le père a eu tel métier, eh bien on espère que toi aussi tu feras ce métier. Si le père était médecin, eh bien le petit a intérêt à faire de bonnes études scientifiques pour être médecin lui aussi. Si le père a été avocat, eh bien pourvu que le fils, on espère bien qu'il reprendra l'étude du père. Si le père est commerçant, on espère bien que le fils reprendra le commerce du père. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins qu'évident. On voit de moins en moins, je voyais encore un reportage l'autre jour sur les pères agriculteurs qui espéraient que leur fils reprenne la ferme, mais le fils, il ne veut pas d'un métier aussi dur. Comme s'il n'y avait que des métiers faciles sur Terre. Non, il y a encore des métiers durs, il y en aura encore très longtemps, je crois. Alors, c'est toujours le souhait des parents. Alors, certainement qu'on avait répété à Jabez, mais rappelle-toi dans quelle souffrance ta mère t'a mis au monde, comme si lui, il y a été pour quelque chose, le pauvre. Il n'y était pour rien. Et c'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, éloigne de moi, que je ne sois plus dans la souffrance. Alors il a dit, si tu me bénis, est-ce qu'il est égoïste de dire, Seigneur, bénis-moi ? Je ne le ferai pas vraiment cet après-midi, mais si je demandais, et je me compte dans le nombre, quels sont ceux qui n'ont jamais prié en disant, Seigneur, bénis-moi ? Hein ? Je ne vous demande pas vraiment de lever la main, mais je devine que ça n'a certainement pas arrivé à quelqu'un de ne jamais demander « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, fais que. Seigneur, étends mes limites. » Bon, ça, c'est une prière un peu spéciale. Nous allons y revenir. « Seigneur, que ta main soit sur moi, préserve-moi du malheur. » Un certain nombre de nos prières sont égoïstes, en apparence. Mais si on lit attentivement la prière de Jabez, « Seigneur, bénis-moi. » Qu'a dit, rappelez-vous ce que disait Dieu à Abraham. Dieu a appelé Abraham à être une bénédiction. Il a dit, tu seras une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ta postérité sera innombrable comme les étoiles du ciel ou le sable de la mer, et tu seras en bénédiction à de nombreux peuples. Pour être en bénédiction, il faut soi-même être béni. Il est difficile d'être en bénédiction aux autres si soi-même on n'a pas reçu la bénédiction. Pour pouvoir la transmettre, il faut l'avoir reçue. La prière, Seigneur bénis-moi, il est évident qu'on ne va pas la faire si on ne croit pas en Dieu ou si on vit une vie dans le péché, si on vit une vie qui déplaît à Dieu. Dieu ne peut bénir que ceux qui marchent dans ses voies. C'était le cas par exemple de Joseph dans sa prison, dans la prison d'Égypte. Dieu l'a béni parce qu'il marchait dans les voies de Dieu. La prière égoïste, non. Il prie pour lui-même, oui, mais parce que la première des choses à faire, si on veut pouvoir être utile, si on veut pouvoir apporter quelque chose aux autres, c'est d'être soi-même l'objet de la bénédiction de Dieu. Prière légitime, bien sûr. Prière spirituelle, oui. Parce que Jabez dit, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites. Et si je suis béni et que Dieu étende mes limites, ma bénédiction pourra se transmettre encore davantage aux autres. Dieu nous bénit toujours de toute façon pour que nous-mêmes nous soyons une bénédiction pour les autres. Dieu ne bénit jamais un être humain pour qu'il garde cette bénédiction exclusivement pour lui. Dieu, par exemple, nous a fait la plus belle des bénédictions qui est le salut. Quand Dieu sauve quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire ensuite, d'ailleurs Dieu ne le dit pas dans sa parole, maintenant que tu es sauvé, reste tranquille. Fais attention, ne bouge plus, ne sors plus de chez toi, garde précieusement cette bénédiction. Tu es sauvé. Ne te laisse pas contaminer par les autres, donc reste chez toi. Tu te débrouilleras pour vivre, pour manger, pour voir à tes besoins, ne t'inquiète pas. Non, Dieu envoie ses disciples qu'il a sauvés et que Jésus a formés. Il les envoie dans le monde pour qu'ils puissent être en bénédiction aux autres, pour que ce qu'ils ont reçu puisse contaminer les autres. Parce que ce que Dieu donne est fort, est puissant, est efficace. Ce que Dieu donne est toujours une bénédiction. Notre problème, bien sûr, c'est que trop souvent, nous aimerions que Dieu nous accorde comme bénédiction ce que nous lui demandons. Trop souvent, nous disons « Seigneur, fais que ce que je vais faire là maintenant puisse réussir. Fais, Seigneur, que cette prière que je viens de te faire, je puisse avoir la réponse que j'attends de toi. » Mais vous savez que Dieu ne répond pas souvent à de telles prières. Dieu est prêt à nous bénir, Dieu est prêt à ouvrir des portes sur notre chemin, Dieu est prêt à nous conduire, mais non pas où nous voulons être conduits. Il ne veut pas ouvrir les portes que nous souhaitons voir s'ouvrir devant nous, mais il ouvrira celles qu'il a choisies, celles qui sait être les meilleures pour nous. Très souvent, nous voyons cela dans la vie chrétienne et nous voyons cela dans la Bible. Dieu nous conduit sans nous dire exactement où il nous conduit. Parce qu'il ne voudrait pas que si nous le savions, nous préférions prendre un autre chemin. Nous avons toujours en nous une certaine nature humaine qui essaye de refaire surface de temps à autre. Dieu a béni Jabès, il a étendu ses limites, sa main était avec lui, il l'a préservé du malheur et il l'a sorti de sa vie de souffrance. Comment le savons-nous? C'est écrit dans la dernière ligne. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et je crois qu'il y a un rapport direct entre ceci et entre ce que nous lisons dans l'Évangile, quand il nous est dit que si nous demeurons en lui, si nous demeurons en Dieu, si ses paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans ses paroles, nous pourrons demander tout ce que nous voudrons et cela nous sera accordé. C'est écrit dans l'Évangile de Jean notamment. Si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans ses paroles, alors nous pourrons demander et seulement alors nous pourrons demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Pourquoi? Parce que bien évidemment, tout ce que nous demanderons à ce moment-là sera inspiré par lui, puisque nous demeurerons dans ses paroles. Alors, que son nom soit béni et qu'il nous aide. À savoir qu'il est un Dieu qui peut abattre toutes les fatalités, qu'il est un Dieu qui veut pour nous une vie de bénédiction, une vie dans laquelle nos limites s'étendent, à condition qu'elles s'étendent pour le bien de son œuvre, pour sa gloire, qu'il peut nous préserver du malheur et de la souffrance, parce qu'il veut nous aider à découvrir la vie dont il parle dans l'Évangile de Jean toujours, quand Jésus dit que ceux qui croiront en lui, qu'il est venu, pour que ceux qui croient en lui aient la vie, et qu'ils aient la vie en abondance. Que son nom soit béni.